proper supporters. You can't beat them. But just imagine if your business had the same kind of support as your team. The government is helping businesses all over the country with support for financing, support for innovation, support for exporting, and support for leadership training. And we're not talking part-time supporters either. Move your business up a league. Go to businesssupport.gov.uk.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata
Roussanou.
Verratti, il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Timothée Mémon.
23h06, la deuxième heure de l'after. On va vous parler des championnats où on joue encore au foot en Russie, en Turquie, au Mexique, au Brésil, au Chili. On va vous parler également du top 3 des maillots que vous préférez. C'est un sujet que vous avez choisi sur le hashtag Mon After. C'est vous qui donnez vos idées de sujets dans l'after. Et puis il y aura un quiz à la fin de cette heure. Tiens, on vient d'entendre Cédric Villani là, avec le fameux Barca. Je sais pas si vous avez lu.
C'est pas Villani le Barca.
C'est pas Villani, si. Non, c'est
Villani. Villani, c'est le
Parc. Ah oui, Patrick Lelay. Patrick Lelay pour.
Patrick Lelay, lui, c'est je vais voir au Parc Saint-Germain.
Au Parc Saint-Germain, effectivement. Je vous conseille l'excellente interview de nos confrères de SoFoot sur leur site internet, justement de Villani, qui a accepté de se soumettre à une interview dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas. Et le tout donne quelque chose de très consistant et vraiment pas mal. Ça vaut vraiment le coup.
Sans ironie.
Ah non, sans ironie aucune. Non, c'est une vraie chouette interview réalisée par SoFoot auprès de Villani. Voilà, on va vous parler, on vous l'a dit, du football là où ça joue. Ça joue encore en Russie à huis clos, ça joue en Turquie à huis clos, au Mexique, au Brésil, au Chili. On est avec Vincent Tanguy qui est spécialiste du football russe. Salut Vincent.
Bonsoir à tous.
Salut Vincent.
Salut Vincent.
Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quelle mesure le football russe continue, comment ça fonctionne rapidement?
Eh bien, tout simplement, en fait, en Russie actuellement, on est dans un cas un peu de coronavirus un peu plus tranquille. En gros, on va dire que qu'actuellement en Russie, les statistiques sont relativement faibles. On est actuellement, en tout cas aujourd'hui, à 63 cas, en tout cas pour les statistiques officielles, et pas du tout de morts. Donc il semblerait qu'en fait, en Russie, on est un petit peu... le sentiment que voilà, ça se fait un petit peu de manière tranquille. On essaye de passer un petit peu la situation de manière très calme. Et donc en fait, ça n'empêche pas le maintien des matchs et ça se joue globalement tranquillement, mais voilà, dans certaines régions, il y a quand même des huis clos ou bien
des stades limités à 5000 spectateurs.
Des huis clos partiels, ouais.
Ouais, tout à fait.
Depuis,
j'ai l'impression qu'en Russie, si on dit aux gens vont rester à la maison, ils vont le faire.
Oui, tout à fait. Ouais, je pense
c'est discipliné. Ouais.
Ils sont à écouter,
mais pourquoi? Mais ils diront pas non, c'est bidon tout ça. J'ai envie d'aller me balader. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ils vont pas dire non, c'est un complot.
Quand même pique-niquer sur les quais.
C'est le gouvernement qui a fait ça exprès et tout. Je sais pas pourquoi.
Ils vont pas faire ça. C'est le ressenti qu'on a ici. Est-ce qu'on se trompe?
Oh, il doit y avoir des frondeurs en Russie, il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de frondeurs.
Je pense que dans ce domaine, on est un peu champion du monde.
Vincent,
de conneries, oui. On est champion du monde. Ouais. Comme de foot,
d'ailleurs. Les latins, en général.
Non, en Italie, en Espagne, une légende.
Ça a mis le temps en Italie. Hein.
C'est une légende. Ah, non, ça a mis le temps, c'est venu très très vite.
Vincent, justement, parle-nous un peu de ce championnat, des matchs les plus attendus, des prestations d'Adil Rami.
Alors oui, Adil Rami est bien au FK Sochi. Il est arrivé en effet cet hiver, un peu à la surprise générale. Et puis
le patron du club est un ami de Poutine, non, c'est ça?
Alors le club en fait est l'ancien Dynamo Saint-Pétersbourg qui a été transféré
à Sochi.
À Sochi, avec toutes les nouvelles infrastructures que
dispose la ville. Il paraît qu'il y a beaucoup de blé à Sochi, on veut en faire une sorte de Monaco russe, c'est un peu ça?
J'ai vécu un mois.
Alors c'est vrai que c'est le centre un peu sportif du pays, avec beaucoup d'infrastructures, notamment sur le patinage artistique, un super stade, hein, on l'a vu durant la Coupe du Monde.
Un circuit de F1.
Il y a un circuit de F1, absolument. Il y a pas mal d'activités. Et puis, il y a aussi une station de ski aussi. Il y a les stations de ski de Sochi qui sont à côté.
Il y a un énorme tournoi de poker en ce moment là-bas. Un des rares derniers endroits où ça joue encore.
Donc voilà. Donc on est dans une région en effet qui se développe sportivement. Après en termes de football, c'est pas forcément la zone la plus.
C'est une équipe qui est relégable et en gros la mission qui est donnée à Rami, c'est d'essayer de sauver le club.
En fait Rami il est un petit peu pour ça, mais sauf que actuellement il joue pas. On a joué à peu près 3 ou 4 matchs, je crois, et donc il est hors de l'équipe. Donc ceux qui sont actuellement en train de sortir le club de la zone rouge, parce que à l'heure où on parle, le club est sorti avec 3 matchs enfin 3 victoires consécutives.
Ah, le club est sorti. Je savais pas que le club était sorti.
Il est sorti de la zone rouge. Et là, en fait, c'est plutôt des joueurs comme Kokorin, Alexandre Kokorin, qui sortent un petit peu le club un petit peu du trou. Donc ça joue plutôt pas mal enfin en ce moment.
Et pourquoi il joue pas? Lui, il est plus blessé, je crois.
Il est pas prêt, peut-être, physiquement.
Oui, alors c'est vrai que moi aussi je me pose la question en fait de savoir un petit peu pourquoi il joue pas. Il y a eu un documentaire sur Kokorin où on l'a vu à l'intérieur. Donc il a l'air de s'entraîner avec le groupe.
Ils l'ont pas pris pour pas le faire jouer parce que ils l'ont fait venir, ils lui ont mis un beau contrat quand même.
Bah j'imagine oui. Et puis en tout cas ça a fait un effet de com important. Le SK Sochi, on n'en parle pas forcément, on n'en parle pas beaucoup, en tout cas on n'en parlait pas du tout, et là c'est vrai que ça a ramené, avec l'arrivée en plus de Kokorin et la manière dont il est arrivé, ça a fait parler en tout cas du club, donc tout positif pour le club.
Vincent, un monument du foot russe en danger, c'est le Rubin Kazan qui est relégable actuellement.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ils ont gagné ce week-end. Ça a été difficile. Ils ont fait appel à Leonid Slutsky pour reprendre l'équipe cet hiver. Il a fait un bon mercato d'hiver, parce que le mercato d'hiver est assez long en Russie. Hein, la trêve hivernale est longue, donc ça permet aux équipes de bien pouvoir se renforcer et de pouvoir bien s'organiser et s'entraîner. Donc il a plutôt pas mal travaillé, notamment durant les matchs de préparation. Maintenant, il faut du temps pour que la sauce prenne et en effet il y a besoin cruellement de points. Donc là ils ont pas trop mal, ils s'en sont pas trop mal sortis aujourd'hui, mais il faudra montrer beaucoup plus.
Un dernier mot, Vincent, sur le Zénith. C'est l'actuel leader de la première ligue russe. Le Zénith Saint-Pétersbourg qui a étrillé Oural, je pense que ça se prononce comme ça.
C'est ça.
7-1 hier, avec le premier but de Malcolm.
Tout à fait. Tout à fait. Malcolm qui revenait de blessure. Hein. Il a mis beaucoup de temps à revenir. La trêve hivernale est arrivée, donc ça lui a permis en plus un petit peu de plus de se préparer. Il a fait l'ensemble de la préparation avec le groupe. Et puis donc là, il rejoue à nouveau depuis le début. Alors le début 2020 a été assez mitigé pour le Zénith, qui a eu du mal à trouver en gros les filets, puisqu'ils ont fait deux matchs nuls 0-0. Et là en fait ce week-end ils se sont bien énervés, ils étaient à la maison, il y avait pas mal de monde d'ailleurs au Krestovski durant le match. Et donc ils en ont planté en effet 7 contre un club Oural qui est un petit peu...
Oural, c'est des montagnards. Hein.
Vincent, j'avais dit que c'était la dernière question, mais j'ai une petite question perso. Quand est-ce qu'on revoit Rémi Cabella avec le FC Krasnodar? C'était blessé de suite au début de sa préparation, donc on est autour là des... Ça fait à peu près 8 mois?
Oui, tout à fait. Oui, ouais, on espère le revoir le plus peu possible. Je pense que normalement, avril, il devrait être de retour. En tout cas, il va faire énormément de bien à ce club de Krasnodar qui a besoin d'un milieu de terrain. Ils ont perdu d'ailleurs aujourd'hui, et donc son retour est en effet très attendu. Ouais.
actuel troisième du championnat. Merci beaucoup Vincent Tanguy d'avoir été avec nous pour nous parler du football russe. C'est l'occasion, puisque les grands championnats sont à l'arrêt, de s'intéresser un petit peu aux autres Vincent. Championnats là où
profite,
ça joue.
Profite, hein, on va pas te rappeler de sitôt.
Encore. on va rejoindre Hussein qui est notre
lui, c'est pareil, hein.
Spécialiste Turquie.
Lui on l'appelle parce qu'il a toujours des histoires croustillantes, mais profite
justement,
bien. Profite bien mon petit Hussein pour nous vendre la Turquie, parce que ça va pas être demain la veille qu'on va revenir dessus.
Comment ça va, Hussein?
Bonsoir Timothée, bonsoir Pierre, bonsoir Daniel.
Salut Hussein, ça va?
Alors ça jouait aujourd'hui en Super League. Kayserispor a battu le Yeni Malatyaspor 2-1 malgré un but de l'Islandais, ça s'invente pas, Kjartansson. Trabzonspor a fait match nul face à Başakşehir, un but de Skrtel contre son camp et un but de Dembaba. Ça vous rappelle quelque chose, les Parisiens là?
Rien du tout. Hussein, est-ce qu'on pourrait commencer par un petit point des retraités du football qui sont dans ton championnat?
On en a pas mal, ouais, notamment dans les...
Je termine avec un des derbies de Galatasaray. Galatasaray Beşiktaş 0-0. Ah. Un match, d'ailleurs, globalement, moyennasse. Tu l'as vu aussi?
Ben non, j'en ai vu qu'une période, la première. Ouais. Et effectivement, je me suis pas...
C'était pas des matchs à huis clos. C'est compliqué.
Ouais, carrément.
Hussein, justement, quelques histoires sur ce championnat turc.
Mais il en a trop.
Comme je l'avais déjà expliqué, on a un niveau qui a encore baissé ces dernières années en raison des difficultés économiques, notamment des gros clubs qui sont tous suivis par le fair play financier. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros de dettes pour les gros clubs. D'ailleurs, pour l'anecdote, Fenerbahçe, l'année dernière, a lancé une cagnotte télévisée du type Téléthon pour récolter des fonds. Et du coup, pour combler une partie des dettes. Donc, ils vont quand même récolter 50 millions d'euros.
Les gens ont donné de l'argent à un genre de fonds qui a redistribué aux différents clubs.
Quand ton club
apparemment,
est géré comme
ils
ça.
Ont pris, ils ont eu l'aval de l'UEFA par rapport à ça, pour le fair play financier. L'UEFA a dit vous pouvez y aller, donc du coup ils ont lancé cette cagnotte.
Ouais, tiens, t'as raison, d'ailleurs c'est un peu étrange parce que c'est pas une rentrée classique d'argent, de sponsoring ou de...
Je sais pas, c'est ce qui a été communiqué par le club en tout cas.
Bah, j'imagine que si demain le PSG veut faire une cagnotte et que je sais pas, un émir veut abonder la cagnotte de quelques centaines de millions d'euros, il pourrait alors à ce moment-là. D'après jurisprudence.
Étonnant, quand même.
Comment ils font pour payer les retraités alors?
J'ai du mal à comprendre. C'est vrai que des fois on entend qu'ils ont du mal à payer les salariés des clubs qui doivent gagner 500 ou 1000 euros par mois. Et en même temps, ils achètent des joueurs assez connus, hein, comme par exemple Mohamed El Neni à Beşiktaş, qui a été prêté par Arsenal. Vous avez beaucoup de joueurs qui sont passés par la L1. Du coup, c'est comme si on avait une Ligue 1 bis. Vous avez au moins 3 ou 4 joueurs dans chaque club. Bon, ça va de Jean-Michel Seri, Mario Lemina, Nkoudou, Mevlüt Erding.
Oh là là, Erding, il joue encore ?
Erding, ouais, il joue plus beaucoup, il est remplaçant au Fener, mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a, malheureusement.
Et c'est quoi le niveau, c'est quoi le niveau des mecs, là, des anciens de Ligue 1 quand ils jouent là-bas? Tu les trouves bons ou pas bons? Alors, on peut un Seri, parce que Seri à Nice, la première année qu'on le voit, on l'aime bien, quoi.
Comment? Qui?
Seri, au début, on le trouvait bien.
Seri, Galatasaray a eu du mal en début de saison, vous l'avez vu, en Ligue des Champions. Après, ils ont tendance à bien finir les saisons, comme cette année, ils avaient plus de 10 points de retard. Et depuis qu'ils ont pris la Coupe d'Europe, comme ils ont une équipe qui est un peu plus de qualité par rapport aux autres, je pense qu'ils vont peut-être repasser devant cette année aussi avec Fegouli qui avait fait la Coupe d'Afrique, donc il était pas en forme il avait pas vraiment de vacances quoi pour démarrer la saison. Donc Fegouli, Seri, Mariano, Lemina, c'est quand même pas mal quoi. Falcao aussi qui revient.
C'est que des mecs qui sur le papier ont eu au moins un moment un bon niveau quoi. C'est ça qui.
Ouais, oui. Même au Fener, il y a des Dirar. Bon, c'est des joueurs qui commencent à vieillir. Hein. Isla.
Ça donne quoi, Isla, Luis Gustavo?
Isla, il a 45 ans, Isla.
Luis Gustavo au Fener, ça donne quoi?
Il a 32-33. Bien qu'il ait 32-33 ans, c'est largement le meilleur. C'est ce que disent tous les supporters du Fener. C'est largement le meilleur joueur de Fener, mais malheureusement, le reste de l'équipe, c'est vraiment d'un niveau bas, quoi. Et du coup, ouais, malgré ça, on a un championnat assez serré enfin, cette année. Il y a quelques semaines, on avait 7 clubs qui pouvaient prétendre au titre. Là, aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Donc, à ce niveau-là, c'est assez serré. Mais c'est vrai que le niveau est assez bas. Heureusement que Başak Şehir a sauvé l'honneur en Coupe d'Europe. Hein. Vous savez qu'ils sont 16e, ouais, ils sont 16e de finale de l'Europa League après avoir éliminé Mönchengladbach et le Sporting.
Ouais. Ce qui, en soi, sont quand même deux très bons résultats.
Oui, oui. Donc, bien qu'ils aient marqué deux fois dans les arrêts de jeu, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais c'est une équipe, en fait, qui n'a vraiment pas beaucoup de supporters, un peu comme, on va dire, le Paris FC,
par exemple. Mais le plus important des supporters en Turquie.
Oui, enfin...
C'est pas le club favori d'Erdogan.
Il y a trois clubs, en fait, qui sont proches de Erdogan dans le championnat turc.
S'il a trois clubs, ça va, ça facilite un peu...
il peut surfer sur le meilleur du moment.
Voilà, du coup, à ce niveau-là, ouais, on a un championnat bien, enfin, assez intéressant à suivre au niveau du titre, vu qu'il y a quatre équipes qui peuvent prétendre au titre, mais bon, après le niveau de jeu, bien sûr, c'est pas ça.
Merci beaucoup, Hussein, d'avoir été avec nous. T'es évidemment le bienvenu dans l'After. T'es chez toi, évidemment. On va faire une petite pause et puis on reviendra vous parler notamment des championnats sud-américains. On a quelques anecdotes plutôt sympas. On sera avec Nicolas Cougo, qui est lui spécialiste du foot sud-américain. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
23h23, faites un vœu, on est de retour dans l'after jusqu'à minuit. Évidemment, on va continuer de vous parler des championnats où ça joue au football. C'est le cas notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans certains pays d'Amérique du Sud, pas tous. On reviendra également sur le top 3 des maillots qui vous ont le plus marqué, ceux que vous trouvez le plus beau. On vous a posé la question évidemment sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et puis il y aura un petit quiz à la fin de cet after. Pour parler de l'Amérique du Sud, on est avec Nicolas Cougo, spécialiste du foot sud-américain. Salut Nicolas. Ou pas. Il est là, ça y est. Salut Nicolas.
Salut.
Salut Nico.
Alors Nicolas, on continue à jouer. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a motivé le fait que certains pays continuent à jouer alors que le championnat colombien, par exemple, a s'est mis en pause?
Ouais, alors on a la plupart des championnats qui se sont mis en pause. En fait, on y va un petit peu pas à pas, on va dire, hein, dans chacun des championnats, parce que on parle beaucoup du coronavirus. L'Amérique du Sud est aussi violemment touchée par une épidémie de dengue. C'est l'une des plus violentes de l'histoire même. Je peux citer un chiffre, hein, par exemple, qui a été donné. Au Paraguay, on a déjà 46 morts à cause de la dengue. C'est en gros, pour l'instant, l'équivalent du nombre de morts sur l'ensemble de l'Amérique latine liée au coronavirus. Donc voilà, donc les pays vont pas à pas. On a des pays où ça joue, parce qu'on n'a pas encore véritablement soit mesuré la dangerosité du chose, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de cas, soit on est encore en train de se battre un petit peu pour savoir comment on va faire. Ça, c'est le cas de l'Argentine, par exemple. Mais petit à petit, on est en train d'arrêter. Hein. Dans la plupart des pays, on est en train d'arrêter. On est en train de jouer, entre guillemets, les derniers matchs chez ceux qui jouent.
On disait que le Mexique continuait à jouer. Le Mexique vient d'annoncer qu'il allait se suspendre.
Quelques petites infos, quelques petites choses croustillantes à ressortir là des dernières journées qui se sont déroulées dans ces différents championnats.
Bah écoute, au niveau des différents championnats, le plus croustillant, c'est toujours le même, c'est l'Argentine, parce qu'ils sont en train de se mettre sur la tronche
pour le titre, ça.
Pour des raisons extra-sportives, on va dire, plus politiques qu'autre chose. Le championnat s'est terminé la semaine dernière avec le titre de Boca, arraché de manière presque miraculeuse. Et on a une nouvelle compétition qui est censée terminer la saison et amener jusqu'à la Copa América, qui s'appelle la Copa de la Superliga. Et la première journée a débuté, sauf que River a décidé de ne pas se présenter, de faire mieux, même de fermer son stade. En fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un gamin des équipes de jeunes qui a... Il était suspecté d'être infecté par le coronavirus et donc le club ne savait pas trop et donc a préféré suivre les consignes de l'OMS, etc. et de mettre tout le monde en quarantaine, enfin de tout fermer. Et ça n'a pas plu à la Ligue. On est aussi dans un contexte politique, c'est-à-dire que comme d'habitude en Argentine, on a des petites luttes d'intérêts entre... Il y a une réorganisation de la fédération et de ce qu'on appelait la Superliga qui va peut-être disparaître. Donc il y a des petits conflits d'intérêts des uns des autres, des luttes d'influence. Et donc River se retrouve là, probablement devrait être sanctionné, la perte du match, perte de points, perte de, enfin, amende.
Nicolas, faut quand même signaler que donc River a fermé son stade, mais a pas prévenu son adversaire, l'Atlético Tucumán.
C'est ce qu'il dit, ouais.
Les mecs se sont pointés et ont trouvé grille fermée, pas un supporter, pas un chat. Des trucs qui arrivent en district,
moyen.
Quoi.
Très moyen.
Ouais, bah enfin, c'est surtout qu'ils y sont allés alors que le communiqué du club de River avait été donné. Ils l'ont pas donné une heure avant le match. Hein. Ils l'ont annoncé la veille, hein, qu'ils ouvriraient pas, si je me rappelle bien.
Donc, oui, ils se sont présentés pour pas être mis en faute, plutôt.
C'est là où on entre dans le côté un petit peu politique de l'Argentine. Hein. C'est-à-dire que. Voilà, c'est River, tout le monde, il y a deux écoles maintenant. Il y a ceux qui disent que River a pris une décision solitaire, d'autres qui soutiennent un petit peu. On a vu même Maradona a soutenu River, c'est quand même assez incroyable, dans sa position. Donc voilà, on est un petit peu divisé, mais là on est sur des luttes, on est sur des guéguerres politiques. Donc ça, c'est le côté un peu croustillant. Après, on a des championnats où ça joue, là, je vous cache pas que je suis devant un match chilien, hein. Ça joue plutôt sympa, on a eu un super but à l'instant, voilà, et ça joue, c'est les derniers matchs, on a un super match mexicain, là, pour en finir avec le foot, on va dire, latino, on a América Cruz Azul, c'est à 3h15, heure française. Mais comme on est en confinement, je pense que vous pouvez veiller, donc je vous le conseille.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tiens, une petite question. On sait que San Lorenzo est le club du pape, pape François. La popularité de ce club a bondi depuis que le nouveau pape est pape?
Ah, tu veux comment ça bondit? On est en Argentine, les mecs, ils ont leur club à la naissance. Hein. On bondit pas. Oui. On bondit pas d'un coup comme ça. Hein.
Non, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu nais avec un club et tu meurs avec ce club.
Voilà. Donc c'est pas parce que tu sois le club du pape ou pas. Ouais, tu découvres que c'est le club du pape, tu vas pas changer d'équipe pour ça. Hein.
Non, surtout qu'on est sur voilà, les clubs sont très fortement identifiés.
Les taux de notoriété, ils bougent pas en Argentine. Hein.
Non, on change pas, on change tout sauf le club.
Nicolas, quid du cas Ronaldinho?
Ouais, voilà, il est en prison, il fait des tournois de futsal avec les flics et ses collègues détenus. C'est un peu. Je sais pas si on doit en rire ou si on doit trouver ça un peu pathétique. Je pense, personnellement,
un peu pathétique. S'il est en taule, autant qu'il s'amuse, hein.
Voilà, c'est ça. Donc, ça fait aussi pas mal. Voilà, ça occupe un petit peu certains médias, pas mal de médias latinos et même les Paraguayens, puisqu'il est au Paraguay. Hein, concrètement, il a été pris avec des faux papiers. Donc,
on a que deux images de lui dans l'histoire en tôle et tout. Tu sais, t'as l'impression qu'il est dans un village de vacances.
Ouais, c'est ça. Il est au Club Med, le mec.
Regarde, en plus, derrière, ça fait un peu, t'as l'impression que la plage est loin derrière les arbres là-bas, là. T'as l'impression que le mec, il est en vacances.
C'est ça. Le mec, il est dans une prison.
Si tu sais pas, tu fais de la photo hors contexte, tu dis le mec, il est en ayant.
Mais Nico, ça pue pour les 50 ans du PSG quand même, au mois d'août prochain, non?
Ah oui, ah
après, je sais pas combien de temps ils vont le garder. Hein.
Bah, ah oui, c'est pour ça.
De toute façon, il a l'air de tellement s'amuser avec tout le monde qu'ils vont lui dire tiens,
on me souffle qu'en bas à droite de la photo, là, à droite pour nous,
à droite.
Pas Iniesta.
Non mais c'est terrible, hein, c'est assez terrible, mais après ça fait une jolie pub pour les...
Et derrière lui là-haut, là, t'as Pierre Ducrot.
Bon non. Pardon.
Il fait l'échauffement là-bas derrière.
Non, c'est Jérôme Leroy. Non. Voilà.
C'est pas très radiophonique ce qu'on est en train de faire. Nicolas, parle-nous aussi un petit peu de Gignac qui continue à cartonner avec son club au Mexique. L'histoire d'amour ne tourne pas court pour le coup.
Un moment quand même.
Ah oui, bah là, elle tournera jamais court. Il est très clairement. Après, c'est toujours difficile de faire ce genre de classement, mais il va être dans les meilleurs joueurs de l'histoire du club, quoi qu'il arrive maintenant. Donc, il a clairement marqué l'histoire de Tigres. Il continue d'écrire son histoire, même s'il est moins influent, hein, je dirais, dans le jeu. Il continue de marquer, hein, ça, d'accord. Il est un petit peu moins influent dans le jeu ces derniers temps. D'ailleurs, le club a un petit peu plus de mal au niveau du jeu ces derniers temps. Mais de toute façon, Gignac à Tigres, voilà, ça va rester. Dans 50 ans, il restera le meilleur joueur de l'histoire.
Une légende.
Ouais, clairement.
C'est le paradis, Nicolas, pour un joueur de foot d'aller jouer au Mexique. Je te pose la question parce qu'on avait vu cette interview de Colo Desiac qui était passé lui aussi par les Tigres, si je ne dis pas d'erreur. En tout cas, par le championnat mexicain. Non, et qui regrettait d'être revenu en France, en tout cas qui regrettait les ambiances, sa vie là-bas. En fait, il a vraiment adoré, quoi.
Après Tigres. Tigres, c'est particulier, hein, parce que c'est le Volcan, c'est un stade incroyable, hein, c'est le stade le plus, j'ai presque envie de, c'est marrant parce qu'il est pas au sud, mais c'est limite, c'est là où il y a une vraie ambiance à la sud-américaine, c'est un stade bouillant, on a un peu de tout hein, au Mexique au niveau des stades, parce que on reste quand même en Amérique du Nord, donc on a des stades où l'ambiance est un petit peu plus nord-américaine. Mais Tigres, c'est particulier. Et oui, bah je comprends. C'est sûr que au niveau des ambiances, et puis il a joué des compétitions continentales. Gignac, il est arrivé, il a commencé par la Libertadores. Hein, l'un de ses premiers matchs, c'était la finale au Monumental face à River quand même. Hein, donc c'est pas l'un des premiers, mais c'est voilà, c'est dans ses débuts. Donc forcément, quand tu fais une finale de Libertadores à River au Monumental. Bah, c'est sûr que derrière, je sais pas, hein, je ne vais pas être méchant envers un club français, mais n'importe quel club français qui reçoit l'OM, c'est pas la même ambiance.
Ah oui.
Merci beaucoup Nicolas Cougo d'avoir été avec nous pour nous parler du foot sud-américain. Salut. Il y a effectivement encore la possibilité de regarder quelques matchs, comme je le dis depuis le début de l'émission, de football frais, de football en live, de football qui existe encore. On n'en est pas encore à se repasser des vieilles cassettes. On va enchaîner. Vous le savez, en cette période un petit peu particulière, il n'y a pas de match à débriefer, il y a des heures d'after à faire. On a décidé de vous donner un petit peu la parole, de vous laisser choisir. Vous allez sur le hashtag MonAfter et vous nous donnez vos idées de débat, vos idées de classement, vos idées de sujets. On les traitera petit à petit, les plus cohérents d'entre eux, bien évidemment. Et c'est d'ailleurs en s'appuyant là-dessus, avec Jérôme Thomas, le producteur de cette émission, qu'on a décidé de vous donner la parole, à vous, auditeurs, à nous, ici en plateau, sur le top 3 des maillots qui vous ont le plus marqué. Alors, les plus beaux, les plus marquants, moi j'en ai un petit peu de chaque dans mon top 3. On va commencer avec toi, Pierre, avant d'accueillir Adèle, qui est supporter du Paris Saint-Germain.
Ah, il y en a au moins un qui les va apprécier, je pense. Alors après, moi, c'est pas forcément les plus... Les plus beaux, c'est ceux qui...
C'est pas forcément esthétique.
Voilà. Ouais, c'est pas que c'est esthétique. Alors en fait, ça le devient, parce que forcément, quand tu aimes un maillot, après tu l'aimes esthétiquement, mais c'est parce qu'il me rappelle quelque chose, forcément. Alors je sais pas si vous avez déjà fait un classement et si je dois aller dans cet ordre-là, mais j'avais forcément un maillot du Paris Saint-Germain. Alors j'aurais pu en prendre quelques-uns, mais j'ai choisi le PSG RTL. Voilà, Suzic, Toko, c'est cette période-là avec cette finale de Coupe de France contre Nantes. Alors c'est pas celui-là, c'est plus le blanc, avec les deux.
Celui-là de ce match-là, c'est quand même un chef-d'œuvre ce maillot-là.
C'est magnifique aussi. C'est pour ça que j'aurais pu en prendre plusieurs. J'aurais même pu en prendre d'autres un peu plus récents.
C'est un match de 83. C'était donc un match de Coupe des Coupes.
C'est ça.
Que le PSG joue.
Et effectivement, le maillot qu'on voit, c'est le maillot RTL avec une énorme bande rouge dans l'axe, deux liserés blancs et le reste du maillot
celui que j'avais, c'est celui qu'on a refait maintenant cette année, le troisième maillot blanc ou le deuxième, je sais plus cette année là. Mais c'est plus celui-là, c'est la finale contre Nantes.
Et ce match-là, c'est pas le match aller au parc, hein, c'est le match au Stadio Comunale.
Non, là-bas, c'est là-bas ça.
Ouais. C'est le match là-bas. Et cette année-là, Juve ira au bout et gagnera la Coupe des Coupes.
Ce qui est intéressant, c'est
qu'il gagne la Coupe des Coupes et le PSG fait 2-2 au parc et 0-0 là-bas.
Et ce maillot Ariston avec Michel Platini, etc., c'est mon deuxième maillot club que j'adorais.
Ce maillot-là,
j'en avais mis trois. J'avais mis celui-là et j'avais mis celui de Saint-Etienne, Timothée, Cabé Jardin.
Ah, le Cabé Jardin.
Et ça, c'est parce que ça avait une petite valeur pour moi. Ça a été mon premier maillot de foot, en fait.
Que j'ai acheté. Cabé Jardin. Mais en fait, à l'époque, tu savais pas ce que c'était que Cabé Jardin, que c'était un produit pour le jardin.
Non, il y a une explication, c'est que mes premières années football, c'est à Saint-Olomone, à la SSOA. On joue en vert. Oui, tu fais pas attention quand t'es petite manière. Mais on joue en vert, et moi je voulais un maillot vert comme celui de mon club. Et le premier magasin de sport où je vais, c'est un maillot de Saint-Etienne, Cabé Jardin. Et après, l'air de rien, ça m'a quand même tenu longtemps. Et...
Ce qui est marrant, c'est sur les maillots du Paris Saint-Germain. On va te demander ton avis, évidemment, Daniel. Mais c'est que moi qui suis né à Saint-Etienne, qui ai grandi avec des maillots des verts exclusivement. Pour moi, le plus représentatif, c'était le Tourtel.
Parce qu'il y a des résultats, parce qu'il y a c'est la grande épopée. Ça va avec ça, forcément. Mais moi, le PSG, j'aurais pu en mettre quelques-uns, forcément, étant
Le Tourtel, il était moche en plus.
Ouais, mais c'est pas que esthétique, c'est ce qu'ils ont fait avec.
C'est
ce qu'ils ont fait avec.
Toi, ton maillot du PSG préféré, j'imagine que dans ton classement, il y en avait peut-être un, non? Pas nécessairement.
Celui qu'on a vu là, le maillot d'Echter, mais ouais, c'est vrai. Moi, après, la vérité, les maillots, moi, j'ai jamais été collectionneur de maillots, j'ai jamais été grand fan de maillots. Pour moi, le maillot, il fallait qu'il représente quelque chose. Il fallait qu'il soit lié à une équipe que je supportais. Parce que si c'est pour parler de l'esthétisme,
c'est ce qu'on se dit. Le Tourtel, c'est effectivement pas bon.
Moi, il y en a mille que j'ai trouvé beau. Tu vois, par exemple, là, Mousdaleb avec ce maillot du PSG, bon, c'est un maillot qui est un chef-d'œuvre parce qu'il est créé par Hechter, qui est quand même à l'époque un grand créateur de mode. C'est un vrai super beau maillot. Donc, si on doit parler juste de l'esthétisme des maillots, je l'avais dit une fois ici, moi, le blanc Panasonic de l'OM, je le trouvais magnifique. Celui de Milan, époque Van Basten, les bandes un peu larges, magnifique. Le maillot de l'Inter a très souvent été sublime. Les maillots italiens, en termes d'esthétisme, ont souvent dominé.
Avant, oui.
Ils étaient souvent, quand ils étaient en coton et tout, ils étaient absolument
plus
sublimes.
Avant que maintenant.
Voilà. Donc il y en avait plein. Par exemple, ceux des équipes anglaises, un peu moins. Aussi. Un peu moins. J'étais un peu moins. Oui, mais je l'ai trouvé moins.
On fait quand même de la radio. On vient de voir passer le JVC d'Arsenal.
C'est plus lié à une époque, tu vois, avec un truc un peu particulier dessus. Oui, le JVC Arsenal ou le Sharp Manchester. En plus, souvent, tu avais le sponsor qui allait avec.
On vient de voir Boca Junior. C'est peut-être un des plus beaux.
Ouais,
sauf que moi j'ai plus de mal à l'identifier, enfin à le
esthétiquement là, en parlant purement d'esthétique.
Ouais, esthétiquement, il y en a plein qui sont beaux.
Il y en a plein qui sont
beaux, mais encore une fois, je pense que si un global, ceux du championnat d'Italie étaient les plus beaux, c'était les en termes de couleurs, que ce soit celui de la Roma un peu rouge très foncé, Juve, mais même tous les maillots trois bandes,
l'Inter, le
trois
Milan,
bandes, Inter, Milan, Juve, ils étaient beaux. Mais à la limite ça, on peut tous les trouver beaux. Le maillot. Il faut qu'il te parle, qu'il fasse des frissons, quelque chose de précis, soit parce que c'est le premier qu'on t'a acheté, soit parce qu'il signifie quelque chose par rapport
parce
à ton
club.
Parce
que c'est l'équipe que t'as suivi, que t'as aimé, qui t'a fait vibrer, bien sûr.
Du coup, Daniel, ton top 3, le premier, en sortant l'esthétisme du classement.
En plus, il était beau, donc j'étais content. Le tout premier. Alors bon, après, c'est tout le paradoxe des histoires personnelles et des binationaux et des histoires. Bah, le premier qu'on m'offre, c'est en 78, c'est le maillot de l'Italie. Donc, celui de la Coupe du Monde 78. Mais il n'empêche que le France-Italie du premier tour avec le but de Lacombe à la 38e, là on le voit sur l'écran, c'est celui-là, il est quand même magnifique.
Voilà, donc pour décrire, avec c'est le maillot effectivement
d'un bleu d'une pureté extraordinaire.
Pas de sponsor, d'un bleu profond.
Voilà, avec le col un peu comme ça, non mais il était d'une élégance. Sauf que moi, le France-Italie qui est le premier match de la Coupe du Monde des Bleus. Limite je pleure parce que je suis plus pour l'équipe de France. Mais après je pars en vacances et on me dit mais pourquoi t'as pleuré, t'es con quoi. T'es avec nous en vrai. Et tu sais pas, enfin bon, tous les nationaux connaissent ce genre d'histoire là. Donc je sais, tu vois, en plus t'as 8 ans, t'as le cul entre deux chaises, t'es avec ta famille, on te dit mais non, mais il fallait pas pleurer, mais moi je suis pour la France, je suis pas pour. Bon voilà, ça c'est tout l'histoire de mon enfance ça. Et après le 86 des Bleus, celui-là je l'adore. Je l'adore alors que j'ai peut-être j'allais dire plus d'émotions en 82, je sais pas, parce que le France-Brésil de 86 est tellement fantastique.
Moi, si j'en avais choisi un équipe
maillot
de France,
bleu avec une petite manche comme ça, je le trouve beau.
Ça aurait été 84 et donc 90.
Eh ben non, 84, c'est l'Euro, parce que faut savoir que moi, petit et ado, je pleurais tout le temps devant les matchs. Donc même à 14 ans, je continue à pleurer. France-Portugal,
même aujourd'hui,
je chiale encore.
Tu peux plus le dire, mais même aujourd'hui.
Non, maintenant, non.
Parfois, devant le match du Chili, là, tout à l'heure, on sait très bien.
Et celui de 84, bizarrement, je le trouvais beau, mais bon, je préférais celui-là de 86, alors que j'ai eu plus d'émotions.
J'aime les deux, mais moi 84,
j'ai chialé quand un môme. Je suis allé avant le 3-2, j'ai chialé au 2-1, au deuxième but de Jardot.
Messieurs, on va accueillir Adèle.
Une fois, j'ai chialé avec un match de ton équipe. Toi.
Bonsoir tout le monde.
Attends, je viens d'avoir une information importante, Adèle. Je te mets en toute petite pause. Tu as pleuré devant quel match de Saint-Etienne?
Moi, quand j'étais petit, je te dis, jusqu'à 14 ans, je pleurais très souvent devant les matchs. Et 77, Saint-Etienne-Reims, finale de Coupe de France.
T'étais pour les Verts?
Parce que moi, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il y avait une autre équipe que Saint-Etienne qui joue au foot. Donc Reims, en plus, j'ai dit, c'est ce truc, on s'en fout, quoi. Et quand ça doit être l'attaquant de Reims qui égalise, ça doit être Santa Maria qui égalise, je pleure. Je dis, oh non, Saint-Etienne, ils ne vont pas gagner. Puis finalement, ils gagnent 2-1.
Tu m'as dit qui avait égalisé?
Pas Santa Maria, l'attaquant de Reims qui marque.
Non, c'est un milieu de terrain d'Angers, ça, Baptiste Santa Maria.
Regarde la finale 77, c'est un nom sud-américain. Le mec qui marque pour Reims, 77, la finale de la Coupe de France.
Ah, je peux pas vous aider.
Ça doit être Christian Lopez et ça doit être Mercadier qui doit marquer ça doit être les deux buteurs des Verts. Et celui de Reims, il a pas ça, Jérôme, sous la main. Tu dois connaître,
il va
sort ton club,
ça.
Merde.
Ah oui, après, je connais pas tous les buteurs de tous les matchs.
Et au but de Reims, chiale quand même une peu. En même temps, j'ai 7 ans. J'ai le droit à ce moment-là.
Non, mais t'as le droit de pleurer pour Saint-Etienne, ça y a aucun.
Donc pour ton club m'a fait de la peine quand j'étais petit.
Il y avait effectivement Santa Maria.
Ah, il a marqué.
Bravo.
C'est lui qui marque. Et Santiago, les deux buteurs des Verts, c'est pas Lopez de la tête.
Et les buteurs des Verts, on va me les souffler. En attendant,
Lopez
on va accueillir
Mercadier, non?
Battenay et Mercadier.
Hein?
Battenay et Mercadier.
Battenay qui va?
Battenay sur penalty. Et Mercadier.
Je suis sûr que c'est Lopez.
Absolument.
Bon, mais Mercadier, je l'avais, c'est le but de 2-1.
Mercadier. On va accueillir Adèle, 37 ans, supporter du Paris Saint-Germain.
Salut Adèle.
Ton top 3, Adèle.
Bon, alors d'abord, excuse-moi, avant de commencer mon top 3, je vais simplement dire à Daniel qu'on s'est fait rouler dans la farine, c'était quand c'était, je sais plus, c'était vendredi, pour le quiz. La prochaine fois, exige ton droit de retrait. Daniel.
Ouais, mais c'est qui? C'est Gilbert. Alors, écoute, c'est Gilbert qui t'a roulé.
Écoute Adèle, je préfère ne pas revenir sur cet épisode.
Oui,
qui
est,
c'est Gilbert qui vous a roulé. Qui est quelque chose qui ressemble à un mélange Gilbert, de Byron Moreno 2002. Ouais, bah,
si Gilbert vous a roulé, c'est comme ça tous les soirs.
Et
un quiz, c'est comme ça.
Non, mais là, je pense qu'on a atteint.
J'ai fait deux quiz avec vous les deux fois, Gilbert m'a
roulé. Là, on a atteint des limites. Je pense qu'Adèle, je pense qu'on a explosé toutes les limites possibles.
On est plus surpris, Adèle.
Mais c'est pas grave, j'ai quand même gagné le ballon. Bon, alors je vais commencer. Alors moi, je précise bien que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je vais mettre un tas de Parisiens à dos. Mais attendez, quand je dis mon top 3, là, je vais commencer par, on va dire, c'est un ordre chronologique. Alors, en troisième position, je mets le maillot de Marseille 93, celui avec les trois bandes. Le blanc et bleu ciel.
Eh ben, tu vois, celui-là, c'est bizarre parce que celui-là, esthétiquement, je le trouvais vraiment très moche. Cette espèce de brillant et oversize, je le trouvais moche.
Moi, on en revient, Adèle, à ce qu'on expliquait avant. Moi, pour moi, un maillot, faut qu'il me donne des sensations, des frissons, des...
Non, moi, je peux dire qu'il est...
Moi, j'y arrive pas.
Le Panasonic, j'ai toujours trouvé très, très beau, mais celui-là, je trouvais moche.
Non, mais il va être beau, mais...
Alors, regarde, celui de Milan de 93, il est beau. Les rayures sont belles.
Ah, il est beau.
Mais là, celui...
Non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai pas dit que c'était le plus beau.
C'est ce qui représente pour toi.
Qui nous ont marqué. Alors, pourquoi il m'a marqué? Parce que moi, en 93, je devais avoir 9-10 ans. J'étais gamin. La seule équipe qu'on voyait à la télé, c'était l'Olympique de Marseille. Bon, et le Paris Saint-Germain un peu moins, mais l'Olympique de Marseille par rapport à
le PSG pour les voir à l'époque, il fallait avoir Canal et tout le monde n'avait pas Canal.
J'avais pas Canal, j'ai dû attendre mes 25 ans ou 30 ans.
Ça c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir aussi, c'est la façon dont à une époque, parce que la France a eu un retard en culture foot assez important. Les gens ont tout. En fait, l'histoire d'Adèle, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Les gens ont d'abord été tous pour Saint-Etienne, ont tous été ensuite pour Bordeaux dans les années 80 au moment de leurs aventures européennes.
Dans les matchs qui passaient sur TF1.
Un peu pour Monaco quand ils avaient le machin. Pour l'OM en grande majorité. Et en fait, la cassure s'est faite à ce moment-là où il y a eu des gens en plus des réclames. Mais il faut savoir, le PSG, c'était Canal. Canal, ça représentait de l'argent d'avoir Canal. Et il y a plein de gens qui pouvaient pas se payer Canal. Et l'OM était diffusé par TF1. Et ça a vachement joué dans la répartition. Parce que nous, on n'a pas eu une culture foot en France où il y avait une transmission père-fils comme dans d'autres pays. Ça s'est pas fait beaucoup ou majoritairement comme ça dans notre pays, contrairement à l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont supporté des clubs comme ça. Ben regarde, moi, le premier match du PSG qui passe à la télé, c'est quand même 82, finale de la Coupe de France, le PSG Saint-Etienne dont on a parlé récemment. Et là, il a raison, Adèle. Le PSG à la télé, pour les voir, si t'avais pas Canal, tu les voyais jamais, quoi.
Non mais attends Daniel, je peux pas te laisser dire que j'ai été pour l'OM. Non.
Bah je t'ai pas dit que t'étais pour l'OM. Je t'ai dit que beaucoup de personnes.
Le maillot.
J'ai dit que beaucoup de personnes étaient pour l'OM aussi parce qu'il les voyait à la télé, voilà.
Alors pourquoi d'autres aussi Daniel? Un truc tout bête, mais comme je t'ai dit, j'étais gamin. Mais il y avait quoi qui passait à la télé? On était tous fans. Olivier Tom. Et le maillot, il était comment? Blanc bleu ciel, donc je m'y reconnaissais un petit peu. Après, je me suis fait une culture foot, j'ai commencé à grandir un petit peu, j'ai commencé à regarder un peu plus de matchs à la télé, je me suis inscrit au foot. Et donc là, moi, mon père, ils s'en foutaient complètement du foot, mes grands frères aussi. Donc comme tu dis, Daniel, j'ai pas vraiment eu de sensation. Tu sais,
t'as pas eu transmission là-dessus?
J'en ai eu aucune.
Alors donc, Adèle, tes deux autres maillots?
Les deux autres maillots, alors c'est l'Inter de Milan, 96. Parce que le maillot gris.
Gris et noir, pas tout à
fait. Ah oui, d'accord.
J'ai trouvé magnifique.
Parce que Ronaldo, les belles années de Ronaldo,
Ronaldo,
effectivement.
Ils avaient battu aussi le Strasbourg de Zitelli et tous ces compagnies.
Ouais.
Et le top 1, le meilleur, c'est celui du Paris Saint-Germain 96, parce que c'est le premier maillot que j'ai eu. Je me rappelle, je m'étais à l'entraînement, j'étais tout fier. C'est le maillot quand ils font le 5-0 contre le SPUA Bucarest. Cette saison-là. Celui-là, c'est celui que j'ai préféré. Après, comme disait tout à l'heure à Adrien au standard, j'ai un petit joker.
Vas-y.
C'est le maillot d'Italie 94. Il était magnifique. Et celui-là, il me rappelle vraiment mon premier match de foot. Enfin, c'était la finale de Coupe du Monde 94. C'était la première Coupe du Monde que je suivais. Et c'est la première, c'est le premier match dont je me rappelle réellement. C'était le, bah, les matchs de l'Italie et la finale contre le Brésil. Celui-là, c'est
l'Italie-Brésil au Rose Bowl de Pasadena.
Première souvent, finale. Qui se joue de toute façon, les maillots italiens, c'est souvent une franche réussite la plupart du temps. Merci beaucoup, Adèle, d'avoir été.
Pourtant, celui de 94 l'a marqué, mais d'un point de vue esthétique, c'était loin d'être un des plus beaux.
Ciao, Adèle.
Ciao, Adèle.
Merci beaucoup. Alors, sur le hashtag RMC Live, on nous parle beaucoup du maillot de Manchester United 99. Le col relevé de Campo. Nantes 95.
Nantes 95, ouais. Bon.
Ouais, parce qu'ils sont, mais c'est pas esthétique.
C'est le problème, c'est ce jaune-là a jamais été. Et à la limite, celui des 70s avec le Europe 1 là au milieu, tout jaune.
Et on me parle aussi du maillot rouge de l'équipe de France. Vous vous souvenez de ce maillot rouge? Bon, il m'avait marqué parce que Gomis avait marqué à l'époque deux fois sous ce maillot rouge.
Ils avaient joué contre le Paraguay.
Ouais, absolument, à Grenoble. Maillot rouge qui était assez élégant.
Il me semble avoir vu.
Ouais, mais alors moi, un maillot de l'équipe de France rouge.
Ouais, il y a un petit problème. Ouais. Je vous donne mon top 3 avant de passer au quiz. Moi, j'avais noté un maillot de la SS, forcément, et le casino. C'est celui qui m'a le plus marqué. Ah, le gros rond rouge. Le gros rond rouge sur le ventre. Oui, mais là aussi, il y a une part affective. C'est les années Joseph-Antoine Bell et autres. Le maillot noir de Liverpool, parce qu'il se trouve que moi, je suis collectionneur de maillots. J'en ai beaucoup que j'achète pour la plupart. Puis j'en ai quelques-uns qui sont donnés. Et le maillot noir de Liverpool, moi aussi, j'ai un peu un problème avec.
Alors moi, je t'avoue que si le maillot n'a pas la vraie couleur, pour moi, il vaut rien.
Alors manche longue, il doit avoir les vraies couleurs. C'est celui de Fernando Torres. Et puis je terminerai, parce que les sponsors ont leur importance, sur le maillot away de la Fiorentina 96-97. À l'époque, le sponsor c'était Nintendo et en dessous il y avait un énorme Mario, mais carrément dessiné sur le ventre. Voilà, c'était osé, c'était une autre.
Tu devais être content avec ça. Toi, petit, ça devait te faire plaisir.
T'as fait ton top 3 des maillots les plus moches, non?
Non, tu rigoles.
Il est horrible.
Il est joli, le Nintendo.
Et entre les deux, tu nous en donnes quoi entre les deux?
Il est original.
C'est quoi le deuxième?
Le Liverpool noir de Torres, il est.
Oh ouais, non, même celui-là, le noir Liverpool.
On revient dans un instant pour le quiz de l'after.
Celui de Liverpool, c'est celui de 77 contre Saint-Etienne d'ailleurs.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Timothée Mémon.
23h50, c'est la dernière ligne droite de l'after. On va rapidement faire un petit quiz. Pardon, je crois que c'est bien dire. De l'after, on va faire un petit quiz avec vous. On a deux auditeurs qui nous ont rejoints pour jouer. On vous rappelle simplement que demain, notre grille de programme ne sera pas modifiée. Vous retrouverez évidemment le SMS, Team Duga, Breaking Foot et puis l'after. Et justement, si vous voulez aborder certains sujets, vous allez sur le hashtag MonAfter et vous donnez vos idées, vos envies de sujets pour l'émission de demain et celles à venir. On accueille tout de suite Adrien qui est étudiant et supporter de l'Olympique Lyonnais et Arthur, 19 ans, supporter du Paris Saint-Germain. Salut messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir les gars.
Arthur, tu es le plus âgé des deux, pas de beaucoup. Tu veux jouer avec qui?
Moi, comme la dernière fois, avec Daniel.
Allez, Arthur, Daniel.
T'avais gagné avec Daniel?
Oui.
Et
bon, t'as bien fait alors.
Et l'autre équipe, ce sera
quoi, moi.
Adrien et Pierre. Donc
on va donner le max, Adrien. Je te promets rien, mais on va donner le max.
T'inquiète.
Alors, messieurs, on va commencer. Je vous rappelle, chers auditeurs, vous me donnez d'abord votre prénom avant de répondre, sinon je ne peux pas attribuer les points. On va commencer avec un qui n'a pas dit. C'est quelque chose, une déclaration qu'un joueur n'a jamais dit, mais qu'il aurait peut-être.
Joueur obligatoirement ?
Qui n'a pas dit ?
C'est un joueur obligatoirement ?
Joueur. Oui. En l'occurrence, ce sont des joueurs, oui.
Ok.
J'ai peut-être fait le meilleur match de ma carrière. Oui, j'ai encore le niveau pour rejouer dans les plus grands clubs européens. On se pose beaucoup de questions, Adil Rami. Mon frère. Adrien ?
Non, c'est moi qui ai dit Adil Rami.
Non. On se pose beaucoup de questions, moi et mon frère, mais d'un autre côté, l'ambiance est magnifique ici. C'est vraiment l'endroit où j'arrive le mieux à exprimer mon football. Si je prends perpète, ce sera pas un drame. J'ai déconné. Alors là, je suis désolé, je pense devoir accorder un point parce qu'il y a vraiment eu un concert entre Daniel et Pierre. Je vais vous donner un point chacun. Je suis généreux, ça a permis de chauffer tout le monde.
Mais c'est pas l'auditeur qui l'a dit en premier?
Je crois qu'il y a.
Enfin, moi, dans l'oreillette, j'ai eu tout le monde en même temps. Ça a été assez synchrone. On va partir sur un kick.
Tu vois, ça, par exemple, avec Gilbert, ce serait sûrement mal passé.
Mmh. Oui, mais c'est la différence.
Ah ouais, c'est la différence. C'est la grosse différence.
C'est un acteur apaisé.
Exactement.
Voilà. On va faire un kick-away ici, messieurs. Kick-away ici, je vous donne des clubs. Vous me dites qui a joué en question. Quel joueur a fait ces clubs en question? Nice, Marseille, Saint-Etienne, PSG
Nantes. Non, je te dis des bêtises.
Nice, Marseille, Saint-Etienne, PSG et Nantes.
C'est dans l'ordre de sa carrière?
Non.
En l'occurrence, c'est dans l'ordre, oui.
Donc Nice,
c'est un gardien de but.
Nice. Landreau.
Non.
Je raconte.
Marseille.
Letizier.
Non.
Il n'a pas joué à Marseille.
Il y a Saint-Etienne. Nice, Marseille,
c'est
Saint-Etienne.
C'est plus vieux que ça alors.
PSG, Nantes.
Alonso,
bonne réponse.
Mais oui,
bonne réponse.
Jérôme Alonso, évidemment. Nantes.
Ah oui, putain. Non, moi c'est Marseille que je joue.
À Marseille, beaucoup.
Un point de plus pour l'équipe.
C'est
Arthur,
Nantes que j'avais du mal.
Daniel, un autre kick-away ici. Le Plastica Nitra. Saint-Etienne. Bastia. Duisbourg. Le Celtic Glasgow. Et enfin, le Jeff. Le
Moravchik.
Ouais, bravo. Lubomir Moravchik, bravo. J'avais terminé avec le club japonais. United. Ishihara. Bravo, Daniel. Félicitations. Quel talent.
2-1.
Là, on est à 3-1.
Ah,
on est à
3-1.
Bien essayé.
Pardon.
Bien essayé. Tu le savais pertinemment, mais c'est bien essayé. Là, je vais carrément vous donner une liste longue comme le bras. C'est un joueur qui a donc été ce qu'on appelle un genre de mercenaire.
Xavier Gravelaine.
Mais toujours passé par Saint-Etienne, évidemment.
C'est la thématique pour lui.
Alors, le FC Porto, Tottenham, Saint-Etienne, le Panathinaikos, le Sporting Portugal.
Assuécoto.
Non, le Real Saragosse, Valence, la Lazio, le Deportivo La Corone, l'Atlético Kolkata, c'est en Inde, Rio Ave.
Sinon, un Pongol.
Non, l'idée était bonne. L'idée était bonne. Je vous le refais, il a commencé à Porto, c'est un indice. Porto, Tottenham, Saint-Etienne, Panathinaikos, Sporting.
Machado.
Non, pas Machado.
Postiga.
Postiga, quel talent, Daniel. Là, franchement, bravo. Franchement, bravo, on s'incline parce que.
Bien vous, Daniel.
Ouais, non, mais on connaît, mais une fois que c'est dit, quoi, c'est plus facile.
Ça fait 4-1, messieurs. On va passer à la question suivante. Qui qu'en dit plus? Voilà, vous devez estimer un nombre de joueurs que vous êtes capable de donner. On va jouer tous les quatre, hein, et puis si l'un d'entre vous n'aura pas faire de question auditeur en fait parce que c'est trop facile à chercher sur le web. Donc seul joue pour cette question.
Il va jouer avec nous quand même. Fais confiance un petit peu.
Donc je vais vous demander de me citer une liste de joueurs russes ayant joué en D1 ou en Ligue 1.
Oh.
Voilà. Combien est-ce que tu peux m'en dire, Daniel?
Ouais, mais déjà, Daniel, il a une feuille et un stylo. Moi, j'en ai plus. Je vais prendre dans mes notes.
Je te donne une feuille et un stylo.
2.
Un stabilo, on appelle ça.
Est-ce que tu dis mieux?
Ah, putain.
Pierre.
3. Ah, non, t'as dit 2. T'as dit 2. Daniel, okay. T'as dit 2. Commence pas comme. Oh la vache.
Ah, lance-toi.
Ah non, ça va être dur. Des Russes, hein.
Des Russes. Qui dit 3?
Adrien, t'en as 3, toi?
Il joue pas, lui. T'as dit,
il peut jouer avec nous, quand même.
Tu dis 4?
Fais leur confiance.
Est-ce que tu dis 4? Les auditeurs
non,
3, jouent pas, là.
3, ça suffit, puisqu'il a dit 2. Je vais pas me foutre dedans avec un 4.
Donc tu dis 3. Est-ce que tu dis 4, Daniel?
Je dis 5.
Il dit 5, Daniel. Est-ce que tu dis 6?
Non, je laisse Daniel.
Alors, allons-y, Daniel.
T'es sûr que c'est des Russes? Attention.
Igor Yanovsky.
C'est bon.
Sergei Semak.
C'est bon.
Smertin à Bordeaux.
C'est bon.
Golovin qui est à Monaco.
C'est bon.
Et le dernier qui était à l'OM, Sitchev.
Bravo, Dimitri Sitchev, effectivement.
Mais bravo.
Alors, franchement, t'as trouvé. Ça n'enlève rien à ton talent.
Bien d'accord.
T'as trouvé les plus faciles. Parce que derrière, c'était vraiment pas simple. Igor Dobrovolski
à l'OM. Dobrovolski, bien sûr.
Et Alexander Mostovoy, tout de même.
Oui, Mostovoy.
Et Strasbourg. Richkov, Lens, Kidia Toulouse, Montauban, ouais. Alexander Panov à Marseille.
Et à Nancy, qui était ensuite allé à la Juve, qui était un très bon joueur en sélection dans le club.
J'en ai pas de Nancy.
Mais si,
Dimitri Ananko.
Sacha Zavarov. Non. Si, c'est lui qui a joué.
Il devait pas l'être parce que Jérôme Thomas ne se trompe jamais. Et je vous donne Ruslan Pimenov de Metz. Voilà. En tout cas, un nouveau point pour
mais
Daniel, ça
mec,
ressemble
là.
À...
Adrien, je suis désolé. Mais...
On va aller faire une toute dernière...
Mais on n'est pas obligé.
Zavarov, il était ukrainien.
Tu remets tout en jeu, Daniel, sur la dernière.
Messieurs,
Daniel.
Je vais vous demander...
Bah, je crois pas, en fait.
de nous donner la composition, les 22 acteurs d'un match de légende. Et parce qu'on ne sait pas quand est-ce que va reprendre la Ligue 1, je vais vous demander de me citer chacun à votre tour un joueur qui a participé au déjà fameux Lille-Lyon du 8 mars dernier. C'était un match de légende parce que c'est le dernier match de Ligue 1. Il y avait 28 joueurs au total qui ont participé à ce match, 22 titulaires, 6 remplaçants. Je vous écoute. On va commencer avec Daniel.
Mike Maignan.
Ok, on continue avec Pierre.
Toko Ekambi.
Redis-moi.
Non, il était pas. Arrêtez quand même.
Redis-moi.
Toko Ekambi.
Toko Ekambi. Il y en a qu'un. C'est bon.
Ouais, il m'a fait peur.
Arthur.
Fait peur, la manière dont tu m'as regardé.
Moussa Dembélé.
C'est bon. Adrien.
Joachim Andersen.
C'est bon. Daniel.
Renato Sanchez.
Je vois pas d'ici, il cache la feuille. Oh.
Renato Sanchez, c'est bon.
Lopez.
Lopez, c'est bon. Arthur.
Loïc Rémy.
Loïc Rémy. Bah,
l'auditeur,
c'est bon.
Il peut être devant Internet.
Oui, mais justement, ils font les premiers tours et après. Mm-hmm.
C'est à qui là?
Adrien.
Adrien.
Osimhen.
Osimhen, ça marche. Auditeur, c'est fini. On passe à un duel entre Daniel et
moche.
Pierre.
C'est moche.
Daniel.
C'est à moi là?
Ouais.
Dembélé, il a dit. Toko Ekambi, il a dit.
Dembélé,
José Fonte. Dembélé, il a dit.
José Fonte, ça marche.
Guimarães.
Ça marche. Daniel.
Connais.
Ça marche.
Pierre. Bamba.
Bamba, ça marche. Daniel.
Benjamin André.
Ah, bien joué.
Ça marche.
Rémi a été dit ou pas?
Ah, bah ça, on peut pas le dire. Si ça a été dit, il fallait suivre.
Rémi.
Première erreur.
Aïe!
Eh oui, il a déjà été dit par un de nos.
Tu continues pas à jouer là-dessus.
Ça a été dit, c'est dommage. C'est une déculottée. Alors,
c'est beau, c'est lit.
Bravo, ouais, Arthur, on t'envoie un t-shirt de l'after. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.
Et le RMC Poker Show est là.
Malgré les événements, il est là. Peut-être pour la dernière de
l'année. Et là, effectivement, tous les shows sports seront là demain. Le SMS, le Super Moscato Show, Team Duga, Breaking Foot, l'after. Vous restez évidemment. On reste avec vous tout simplement sur RMC. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée et n'oubliez pas ce que disait Bill Shankly, le football c'est pas une question de vie ou de mort, c'est beaucoup plus important que ça.
RMC jusqu'à minuit,
l'after foot.
Proper supporters, you can't beat them. But just imagine if your business had the same kind of support as your team. The government is helping businesses all over the country with support for financing, support for innovation, support for exporting and support for leadership training. And we're not talking part-time supporters either. Move your business up a league. Go to businesssupport.gov.uk.